France Culture.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre conversation littéraire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'éditrice et écrivaine Maren Zell à l'occasion de la parution de ses mémoires intitulées « Tout est là » aux éditions Grasset. Bonjour Maren Zell.
Bonjour.
Maren Zell, vous êtes l'autrice de 5 livres avant celui-ci, « Mourir d'absence » en 1978, « L'amour d'après » en 1980, « Le dernier amant » en 1994, « La loi, c'est l'amour » en 1997 et en collaboration avec Yann Andrea en 2016, « L'histoire ». Et aujourd'hui, « Tout est là ». J'aimerais qu'on commence là, justement, Maren Zell. Tout est là, il y a quelque chose d'assez terrible, en même temps un peu de définitif dans ce titre, d'impossible peut-être aussi, une apparition, mais qui s'interdit une suite.
Non, je ne suis pas d'accord. Ah. Interdit pas une suite, non. Parce que bon, de penser que tout est là, c'est évidemment, c'est un tout petit peu gonflé, non, de penser ça. Bon, parce qu'évidemment, nous, le tout, c'est l'univers, donc c'est infiniment plus grand. Et nous sommes vraiment une toute petite entité dans cet univers, et mon sujet, enfin ma personne, une toute petite entité. Donc on fait avec le petit. Le petit, c'est quand même ma vie, et ma vie, comme la vie de tout le monde, il y a des strates de l'inconscient, de subconscient, de conscient. Et là, je dirais, tout est là, ce que la réserve de mon inconscient a bien voulu m'indiquer pour que ça arrive jusqu'à l'écriture. Voilà. Dans la réserve, il y a infiniment plus que ce qui se présente.
Alors, vous aviez souvent écrit des choses, des récits autobiographiques. Je pense par exemple à l'adoption de votre fils au Tibet. Mais là, vous racontez vraiment votre vie un peu depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'était un projet de mémoire, en fait, de mettre en forme la mémoire.
Moi, je pense que plus on vieillit, plus on a un regard sur soi comme sur un paysage, non ? Il y a des choses qui sont moins mobilisés, on a une certaine distance, non? Et là, j'ai pris une certaine distance pour me regarder, être agi et agir dans ce paysage. Voilà. C'est ça. Et après, c'était une incroyable facilité. C'était comme si je me promenais au printemps sur un champ de fleurs et que de temps en temps, il y a une fleur comme ça qui me faisait signe en disant: va voir de ce côté-là, je suis là, je te donne une indication. Et puis, je prenais la fleur et il y avait une éclosion de la fleur après dans ma tête et dans l'écriture. Mais c'est vraiment, je me suis sentie invitée et je suis allée très, très facilement. Et il y a eu des retours aussi, des fleurs qui disaient, allez, prends-moi, je prends. Et après, j'ai un petit trésor grâce à la fleur. Et je dis, maintenant, c'est moi qui donne. Alors, prends. Comme ça, l'univers s'agrandit un peu.
Et Maren Zell, est-ce que ces fleurs étaient aussi des personnes réelles qui, tout d'un coup, se sont rappelées à vous et qui vous ont dit, ah, mais voilà, il faut que je raconte ceci ou cela. Est-ce que ça a suscité, en fait, ce retour en arrière, cette anamnèse, du coup, de nouvelles rencontres avec des personnes du passé ou peut-être
oui.
Une révision de...
Ou les voir sur un autre éclairage. Moi, je pense que c'est un regard, le regard d'une amoureuse et aussi le regard d'une femme qui a été aimée. Donc, ça peut être un paysage, ça peut être une maison, ça peut être, bien sûr, la poésie, ça peut être des personnages, etc. Mais les personnages, ils sont... par exemple, mon père, j'ai jamais pensé à lui de cette façon-là. Quand j'ai commencé le livre, j'ai eu cette bulle de père où j'étais plus du tout gênée de dire à quel point je l'avais aimé et qu'on a formé un tout par la musique. Non, j'étais plus du tout, enfin, il y avait plus du tout des arrière-pensées, non? C'était d'une innocence totale. Et en fait, c'est ça. Avec les autres personnages aussi, c'est comme si j'avais retrouvé une innocence. Parce que il y a des personnages qu'on rencontre pour des raisons un peu d'ambition ou d'intérêt ou, bon, ça tombe tout ça, non? Quand on devient pur, on redevient. Comme ça, on rechemine vers une innocence, ouais.
Vous venez d'évoquer votre père, Maren Zell, et vous avez grandi en Allemagne, pas très loin de la frontière française, dans une famille de gens qui avaient été déplacés par la guerre.
Ben, en Allemagne, beaucoup, beaucoup de familles ont été déplacées, hein. Parce que mes parents, ils habitaient à côté d'Auschwitz, en fait, d'où mon enquête, enfin plutôt comme ça quelque chose de complètement fantasmatique, de me dire que mes parents ou ma mère, mon père aussi, a peut-être vu les cortèges allant vers les camps de concentration. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça a existé. Quand on écrit, évidemment, ça prend un peu une autre dimension, ça se calme. Mais mon traumatisme d'autrefois, c'était vraiment ça.
Et vous avez donc grandi, pas en France, mais en Allemagne, de langue maternelle, bien sûr, allemande, de l'autre côté de la frontière, mais en même temps, pas très loin de la France.
De la France,
est-ce que déjà, s'il y avait une présence de la France quand vous étiez enfant, ou pas vraiment?
Mais la présence de la France, mes parents, par des cheminements, comme vous dites, tout le monde déplacé, donc ils sont déplacés de la Pologne vers l'Allemagne du Nord, et après vers une Allemagne près de Saarbrück, donc près de la frontière française. Et j'avais toujours l'impression que dans l'oreille de mon père vibrait la langue française. Donc, de temps en temps, quand il avait un bisschen beschwipst, non, quand il avait vu un petit verre, il sortait de sa poche est-ce que c'était le fruit d'une expérience, d'un amour qu'il a eu en France? Je ne sais pas, il en a jamais parlé. Mais il avait un petit récit comme ça en français, avec un très peu d'accent, qu'il aimait communiquer avec sa famille ou ses amis. Voilà.
Et ça, est-ce que c'est vos premiers souvenirs de français? Finalement, c'est par la bouche,
oui,
de votre père quand même.
Par mon père.
Donc justement, le français est un peu une langue paternelle quand même, en fait.
Oui, 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 oui. Mon père, c'était la langue française, et je crois que c'est Karl Kraus qui disait ça, ou peut-être c'était Musil, que les Allemands pensent que érotique, non, vient de eröten. C'est-à-dire qu'ils pensaient que les Allemands, ils pensent que l'érotisme a un rapport avec rougir de honte, non? Alors bon, c'est pour ça aussi, je pense que je choisissais le français, parce que ça donne une plus grande liberté dans le registre de l'érotisme, voilà.
Et peut-être dans d'autres registres, on le verra, Marenzel, puisque vous avez fait le choix d'écrire en français, de vivre en français.
L'un des grands problèmes posés par l'amour, c'est qu'il n'y a pas d'amoureux, disons, naïf, ou en tout cas incultivé ou décultivé, déculturel.
Ah, c'est ce que j'allais
et
vous poser.
Être amoureux, eh bien, on ne peut pas séparer le sentiment, la passion amoureuse d'une certaine culture. Et c'est ça qui complique les choses, disons.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont pas du tout de culture? J'en voyais quelquefois dans les autobus l'autre jour, encore une fois, au Maroc, où peu de journaux français, hélas, arrivent en ce moment, à l'exception de certains magazines que je ne veux pas citer, et dont le contenu culturel... Vous allez me dire qu'il y a un contenu culturel également dans ces magazines.
Personne n'est non cultivé, ça n'existe pas.
Oui.
À partir du moment où on est dans le monde, je dirais que la culture commence avant même que le nourrisson parle, enfin. Mais non, ce n'est pas un paradoxe.
Oui, oui.
Tout le monde a une culture, et notamment en ce qui concerne le sentiment amoureux, il est évident que tout le monde, par exemple, a entendu des chansons d'amour, n'est-ce pas ? Ou a vu même simplement de la publicité où il y a des petites scènes reposant sur une, oui, relation amoureuse. Donc, tout sujet amoureux a une culture.
Nous venons d'entendre Roland Barthes au micro de François-Régis Bastide au Masque et la Plume en 1977. Marenzel, votre arrivée à Paris a à voir avec Roland Barthes. En tout cas, c'est quelqu'un qui était important pour vous. Mais j'aimerais aussi qu'on parle d'abord de l'amour. Parce que si on en juge par les titres de vos livres, mais aussi parce que vous racontez dans Tout est là, l'amour a été un des grands moteurs de votre vie.
Oui. Mais là, je crois que je m'améliore, parce que c'était toujours l'amour et la mort, non? Dans le pur héritage romantique allemand, non? Il n'y a pas d'amour heureux pour les romantiques. Mais là, maintenant, j'ai quand même laissé tomber la mort. Hein. C'est-à-dire, il n'y a que des chansons d'amour ou des odes à l'amour, à commencer par mon mari, Georges, qui était dans la pulsion de mort qui, évidemment, traverse les Allemands. D'après-guerre, notre génération, il fallait vivre avec la mémoire de l'Holocauste, donc la pulsion de mort, on savait ce que c'était. Mais il reste que l'amour maintenant, en fait. La célébration de l'amour, c'est-à-dire chaque personnage, il n'y a jamais aucun jugement sur rien. C'est-à-dire ce que je voudrais faire comprendre, c'est comment on peut aimer de différentes façons et à travers tout. Il faut aimer à travers tout. Il y avait des obstacles à l'amour dans ma vie, mais on s'en est sorti.
Revenons à Roland Barthes. Alors, vous arrivez en France pour étudier. En fait, c'est aussi le savoir, la connaissance, la langue française, la possibilité de changer de pays qui vous amène en France.
Au début, à l'université, on n'apprend pas vraiment à parler. Hein. Donc, la recommandation, c'est de partir dans le pays pour apprendre. Et j'étais attirée, j'ai fait des études à Fribourg, dans la Forêt Noire, qui était d'ailleurs l'université de Heidegger. C'est là qu'il a enseigné. Et c'est quasiment à la frontière avec la France.
C'est en face de Colmar, plus ou moins, non, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et moi, j'avais commencé à déjà à Saarbrück avant, étudier le français. Donc j'étais au courant du structuralisme, non? Et par ricochet de Roland Barthes, qui était pour moi le plus tendre des structuralistes. Et donc j'avais lu le livre et j'avais envie de faire ma thèse sur Barthes. Donc je suis parti. Donc il y avait deux pôles d'attraction. C'était de faire la thèse sur Roland Barthes et c'était de profiter de l'après mai 68.
Et vous avez déjà une énergie politique aussi qui vous amenait en
France. Ah oui, en Allemagne. J'étais dans le groupe des étudiants autour de Dutschke, l'Alliance des étudiants socialistes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été introduit en France. Donc j'étais militante en Allemagne. Et quand je suis arrivée à Paris, j'étais déjà un bébé militant allemand, non? Donc je pouvais m'introduire comme ça en France, à Paris, et c'est comme ça que j'ai été aperçue aussi par des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, donc Jean-Marcel Bouguereau, André Glucksmann, voilà.
Mais pourtant, en mai 68 proprement dit, vous n'êtes pas encore à Paris.
Non, j'étais à l'hôpital. En mai 68, je m'étais cassé une jambe là, en faisant du ski.
Et donc vous arrivez à Paris, et tout de suite vous dites, vous venez de citer André Glucksmann, vous dites qu'il était très beau d'ailleurs, que c'était
c'est vrai.
Vous citez plusieurs penseurs comme ça, qui non seulement étaient des gens pour vous politiquement et intellectuellement importants, mais qui aussi en plus étaient beaux. Est-ce que c'était une belle jeunesse à ce moment-là pour vous aussi? Il y avait quelque chose de l'amour, de cet amour justement déjà parce que c'est un peu le cliché qu'on en a aussi de ces années entre 68 et 75, on va dire. À la fois, quand même, on va le voir, hein, une grande violence politique, mais aussi les années, justement, de forme de beauté et d'amour.
Mais pour moi, la beauté n'est pas plastique. Hein. La beauté, c'est dans la façon de parler et d'être courageux, de créer. Et là, il faut dire qu'on était à la pointe, hein, je crois. Parce que, non, il y avait des très, très beaux garçons, très belles filles. Mais c'est le goût de la liberté qui donne ça, non? Je crois.
Comment est-ce que vous revoyez aujourd'hui justement cet engagement qui a été immédiat pour vous? Vous êtes arrivé à Paris et c'est presque comme si vous aviez, enfin c'est comme ça que vous le racontez, c'est comme si vous aviez presque toujours été là. Vous rencontrez ces gens et puis vous rentrez dans un bain d'une façon très, très naturelle.
Mais à l'époque c'était formidable. Par rapport à l'Allemagne où la séparation entre les intellectuels, les militants, les artistes, elle était beaucoup plus tracée qu'ici. C'est-à-dire ici, la première chose que j'ai appréciée, c'est évidemment d'être dans un bain comme ça de langues, des langues inspirées. Et c'était aussi qu'on se mettait à la même table avec Godard, Foucault. C'était absolument impensable en Allemagne. En Allemagne, il y avait un écrivain intellectuel qui a vraiment soutenu le mouvement d'extrême gauche. C'était Heinrich Böll.
Et en France, donc tout de suite, cet engagement, vous rencontrez ceux qui vont devenir la gauche prolétarienne, avec qui vous avez maintenu des relations d'amitié pendant très longtemps.
Relations d'amour.
D'amour, oui.
Oui. Ça, c'est vraiment plutôt... Non, mais amitié en même temps, de complicité en même temps, de voyage. Tout se passait, en fait, sous le signe de la découverte dans d'autres pays, ce qui nous ressemblait déjà un peu, non? On voyageait en Italie pour voir la Lotta Continua, on allait au Portugal pour... Enfin, voilà. C'était un immense réseau de militants de gauche. Hein. Et on se reconnaissait facilement, comme ça, ce que je raconte quand on est allé avec André, souvent en Allemagne, en Russie, en Italie, enfin, voilà. Mais c'était, oui, des voyages de, comment dire, de trouver un partage, non? De trouver des échanges avec les autres. Et d'ailleurs... La Bonne Abadère, la fraction Armée Rouge, à l'époque, ils sont venus à Paris, parce qu'à l'époque, là, donc dans les années 72, 73, oui, ils voulaient créer un réseau de terrorisme européen. Ils sont venus en France pour chercher le soutien de la gauche prolétarienne. Et la gauche prolétarienne, il y avait des militants, mais il y avait surtout Foucault, il y avait Jean-Paul Sartre était là, Glucksmann, etc. Et c'était un interdit total de vouloir comme ça faire de la politique avec quelques individus inspirés. Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est Foucault qui disait « La violence peut être une expression du peuple, mais pas une expression de quelques illuminés comme qui viennent d'Allemagne. » Voilà, donc ça a été vraiment arrêté. C'était important, c'était un geste très important.
Et oui, pourtant la gauche prolétarienne était un mouvement révolutionnaire qui préparait la lutte armée quand même.
Oui, mais ils n'étaient pas encore en train de sortir les pistolets pour descendre.
Est-ce que pour vous, ça aussi, ça aurait été une limite, sans doute?
Ah oui, ben absolument. Oui. Parce que moi, je suis venu en France, je me suis dit, le peuple français, il est bon, non? Contrairement au peuple allemand. Pour moi, en arrivant ici, je pensais que tout le monde a été résistant. Après,
c'est ce qu'on a beaucoup raconté, en tout cas, oui.
Absolument, mais oui, oui. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'il y avait autant de collabos, s'il n'y a pas plus, que de résistants. Mais l'image qu'on avait, c'était vraiment l'image glorieuse du peuple français. Donc je me suis dit, mais voilà, il ne se trompe pas, le peuple va bien se prononcer contre la violence de quelques cinglés.
Et est-ce que dans ces années-là, c'est-à-dire vos premières années françaises, est-ce que votre rapport à la langue française change? Bien sûr, on imagine que quand on vit dans un pays, on acquiert énormément de savoir linguistique aussi. Mais est-ce que déjà vous aviez la sensation que vous alliez aussi déjà vous mettre à écrire en français comme ça a été le cas?
Dans un premier temps, quand j'ai travaillé à Libération, j'étais en France depuis pas très longtemps, et je trouvais un tout petit peu une imposture de vouloir écrire en français, quoi. Parce que, bon, évidemment, on me relisait, mais pour m'autoriser complètement, c'était pas encore le cas à ce moment-là. C'est la traduction qui est devenue un lien aussi, parce qu'avec André Glucksmann, qui parlait parfaitement allemand, mais on prenait Célan, par exemple Paul Célan, ou Mallarmé, et on essaye de trouver la... D'abord, c'est séduisant quand il y a deux langues différentes et on veut toucher ensemble la meilleure traduction. Donc, ça crée un lien avec Sloterdijk, le philosophe. On a eu les mêmes moments. C'est pour ça que mes traductions, séduction. Et après, quand on a trouvé le mot juste, mais c'est une jouissance, c'est une grande jouissance. Et on peut se regarder et on s'aime à ce moment-là, non?
Oui, mais est-ce qu'au moment d'écrire Tout est là, justement, vous êtes revenu, puisque vous racontez aussi ces histoires de rapport à la langue,
ouais.
Est-ce que vous avez repris conscience, justement, du rapport entre allemand et français?
Non.
Non,
ça coulait de source. Là, maintenant, oui, ça coule de source. Mais ce qui coulait de source aussi, enfin, c'est dès le début, donc c'est Rilke qui était mon grand poète d'autrefois, quand j'étais adolescente.
Pas très extrême-gauche, pourtant, Rilke.
Non. Ah non, mais bon, enfin, c'est rare, non, que les grands poètes soient d'extrême-gauche, non. Mais ça, c'était merveilleux que je me suis rendu compte que ce qui était écrit, là, quand j'avais 16 ans, non, dans mon livre de poésie, c'était complètement vivant, non, complètement vivant. C'était cette phrase que je dis, qui a dû guider ma vie. Je ne suis pas là pour professer la haine, je suis là pour professer l'amour. Voilà. Et la haine a toujours été quelque chose de très, très, très éloigné de moi. Je ne supporte pas. Mais de toute façon, quand on lit des poésies, on sait que la haine, c'est quelque chose qui ne se partage pas, non? Et quand on écoute la grande musique, on ne peut pas être dans la haine. Donc c'est vraiment la culture qui est une fenêtre de l'âme et l'âme n'est pas méchante.
Vous croyez qu'en 1973, il y a encore la place d'un quotidien, alors que l'on dit tellement de choses sur la presse ?
Je ne pense pas qu'il y a la place d'un quotidien, mais je pense qu'il peut se la faire. Parce que je ne pense pas que notre quotidien doive être simplement, avec les autres quotidiens, dans un rapport de concurrence. C'est vraiment un rapport de lutte sociale. Parce que nous ne concevons pas l'information comme la plupart des quotidiens français la conservent.
Vous les êtes en marge ?
Pas du tout, je veux, au contraire. Je vais vous dire, nous voulons d'abord qu'il n'y ait aucune chance d'agir sur nous, de faire des pressions. Donc, il y a deux pressions qui sont connues sur les journalistes. C'est les capitaux, ceux que des privés ou des banques ont mis à leur disposition.
Vous serez obligé d'avoir de l'argent pour faire votre
journal. Oui, mais attendez, je vais vous dire comment.
Comme les autres.
Et la publicité. La publicité, immédiatement, vous ne pouvez plus dire la vérité sur des produits, puisque ce sont les gens qui font ces produits-là qui vous donnent de l'argent. Donc,
d'où viendra votre argent?
Du peuple. Nous recevons actuellement environ 5000 francs par jour.
5000 francs nouveaux.
5000 francs nouveaux. 500 000 francs, si vous préférez. Par jour, par billet de 1000.
Et quels sont les donateurs? Vous savez d'où vient cet argent?
Mais ce sont des gens, oui, ils donnent leur adresse, ils donnent leur nom. Ce sont des gens qui veulent qu'un journal libre, comme nous disons, et un journal populaire paraissent, et donc estiment que ce que nous faisons peut marcher.
Mais vous estimez que l'Humanité n'est pas un journal populaire?
Non, pourquoi? C'est le journal du Parti communiste, ça n'a rien à voir avec un journal populaire. Il faut savoir ce qu'on entend par journal populaire. Nous ne sommes pas un journal de parti. D'autre part, l'ensemble des journalistes qui sont là n'ont pas tous les mêmes opinions. Nous avons une seule opinion certaine. Nous croyons à la démocratie directe et nous voulons que le peuple parle au peuple.
Il y a quand même une forme du journal.
Oui.
Il y a un style du journal. Vous dites qu'ils n'ont pas toutes les mêmes opinions.
Et non, ils n'ont
pas. Il n'y aura pas des gens de droite chez vous.
Nous n'avons pas de gens de droite. Il est évident que les gens de droite n'ont pas l'idée de donner la parole au peuple. Comptons créer des comités libération. Et je demande ici à ceux qui veulent bien de les faire. Ces comités libération seront constitués par qui voudra. Les gens de gauche qui veulent que le peuple parle. Donc, des hommes de toute espèce qui se réuniront en dehors de toute question de parti et qui demanderont simplement à collationner les informations.
C'était Jean-Paul Sartre en 1973 au micro de Jacques Chancel qui défendait le journal Libération au moment de sa création, journal dont il était symboliquement le dirigeant. Marenzel, vous avez pris parti dans cette aventure, vous êtes lancé dans l'écriture à l'occasion de la création du journal Libération en 1973.
Oui, ce qui a précédé la création du journal Libération, on avait créé à partir des groupes de la gauche prolétarienne, surtout des Secours Rouges, on avait créé une agence de presse qui s'appelait l'APL. Donc c'était l'agence Presse Libération. Et on était installés rue de Bretagne. On était donc, je sais pas, une dizaine de journalistes. Moi, j'étais responsable de l'Allemagne, l'Europe, grosso modo, et puis des femmes. Et il y avait des jeunes gens qui avaient des mobilettes et les informations qu'on récoltait, qui venaient des bases militantes dans toute la France ou aussi de l'étranger, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, était récolté et mis dans un petit bulletin, et le bulletin, il arrivait dans les rédactions de tous les journaux français. Parce que il faut que les informations du peuple peuvent aussi être entendues par l'ensemble de la société. Voilà. Donc c'était ça, le départ, où il y avait donc les gens de la gauche prolétarienne, mais il y avait aussi Philippe Cavy, et c'était des tendances plus libertaires, plus soft, non?
Et vous commencez, donc vous rentrez dans ce monde et vous devenez journaliste. Et non seulement c'est le début pour vous de l'écriture publique, en tout cas en français, mais aussi c'est la rencontre de cet intérêt qui ensuite, quand on lit Tout est là, a duré toute votre vie pour les femmes et le féminisme.
Oui, oui, oui. J'ai lu après, quand on était à Libération, Serge Joly, il m'avait réservé, enfin, il ne m'a pas enlevé une double page tous les mercredis à Libération. Quand vous dites journaliste, nous, on ne se considérait pas comme étant journaliste. Non, on voulait pas ça. On était la radio du peuple, quoi. On était des émetteurs de la volonté du peuple. Et journalistes, c'était trop...
Des transmetteurs de la volonté du peuple, quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'individualisme journalistique n'avait pas interféré, là. Donc, Julie avait lancé ça. Donc, qui? Alors, les paysans, les ouvriers, etc. Et moi, je disais, les femmes. Alors, les paysans sont jamais venus, les ouvriers non plus, tellement dans la rédaction de Libération, rue de Lorraine à l'époque. Mais les femmes, ils ont trouvé que c'était une opportunité d'être présentes et d'avoir une double page où il y a des violences sexuelles, des avortements, des revendications salariales, etc. Pour les femmes, tout ça, ça avait sa place.
Et Marenzel, est-ce que pour vous, c'était très idéologique? Parce que vous dites, non, on n'était pas journaliste, mais néanmoins, vous aviez quand même un point de vue très personnel sur ces questions.
Mais de toute façon, c'était un peu le retour de que la subjectivité n'est pas un crime. Hein.
Non.
C'était déjà un peu fini, là, le collectif et rien d'autre.
D'accord.
Et que l'individu se noie dans le collectif, ça c'était condamné. Mais avec Libération, parce que quand même, c'est des voix singulières qui peuvent transformer le monde. Non, c'est pas seulement des grandes luttes, mais c'est des voix singulières. Les gens que vous citez, c'est des voix très singulières, non? Donc on était mûrs pour que ça puisse être ça.
Et combien de temps ça dure alors cette aventure Libération?
À Libération? Mais ça a duré jusqu'à...
Cette double page du mercredi?
Ça a duré jusqu'à... Alors la révolution au Portugal, on était partis au Portugal. Et je l'ai trouvé, c'était pas une bonne idée, parce que c'est pas avec des œillets qu'on fait une révolution, non? C'est un peu nous moquer de nous. Et à notre retour, en 1976... Il y a eu scission. Enfin, on était 5 à quitter la rédaction initiale.
Et est-ce que c'est ça qui vous a donné le goût de la plume? Ou est-ce que c'est au contraire, parce que vous aviez déjà commencé vraiment à écrire très régulièrement, que vous êtes rentré dans le journal?
Non, mais le goût de la plume, c'était en France comme ça a été en Allemagne. C'est-à-dire que je copiais des poésies. J'écrivais, je copiais dans mon cahier de poésie. Rilke, Paul Celan, Hesse, les grands poètes. Et avec les poètes français, je faisais la même chose. Et j'essayais de retenir des poèmes par cœur.
Mais est-ce que c'est à partir de ça qu'on se met à écrire sur les femmes ou à rassembler les paroles de femmes?
Non, mais c'était toujours en même temps. Hein. C'est-à-dire, dès que j'avais une motivation amoureuse, la plupart du temps, j'écrivais des lettres d'amour et puis je cherchais des poésies où l'amour était bien exprimé par le poète, etc. Et je mettais ça dans mon cahier de poésie. Comme ça, en fait, je suis devenu un corps enchanté, quoi.
Poétique.
politique et poétique.
Tique, oui, ouais. Une forme de politico-poétique, géopolitique et poétique en même temps.
Oui, oui. Mais c'est de toute façon le corps est dans le monde, non? Donc moi je suis restée toujours sensible à tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est mon corps qui l'enregistre. Et c'est au corps que ça fait du bien. Actuellement, on porte vraiment les stigmates. On a mal, quoi. On assiste à des anéantissements et à des bestialités. On pensait plus que ça pouvait revenir à ce point que maintenant. Donc le corps est hyper électrique, hyper sensible, quoi, devenu. Et il faut qu'il reste, ce que je dis à mes petits-enfants. Il faut, Stéphane Hessel, il avait écrit ce petit livre-là, Indignez-vous. Mais il faut pas oublier qu'on a encore la liberté de s'indigner, quoi. Donc il faut y aller, hein.
Tous les otages libérés, 3 pirates tués, le 4e blessé et arrêté. Pour les terroristes, c'est l'échec absolu. Andreas Bader, leur chef, n'a pas survécu à cet échec. Avec 2 de ses complices, il s'est suicidé ce matin à la prison de Stuttgart. Bader s'est tiré une balle dans la tête. Jean-Carl Raspé, le faussaire de la bande, champion des faux passeports et des fausses plaques minéralogiques, s'est lui aussi tiré une balle dans la tête. Gudrun Eslin, la compagne de Bader, une fille de pasteur devenue passionnariat du terrorisme, s'est pendue à la fenêtre de sa cellule. Enfin, Irgard Möller a essayé de se trancher la gorge au couteau, mais elle a survécu. Ce harakiri collectif à la japonaise laisse rêveur. Comment Bader, le détenu le mieux surveillé d'Allemagne, a-t-il pu se procurer un pistolet 7,65 au fin fond de sa cellule capitonnée? Même chose pour son lieutenant Jean-Carl Raspé. Comment ont-ils pu communiquer entre eux? Comment ont-ils appris l'échec des pirates de l'air alors qu'ils étaient au secret, sans télé, sans radio, sans journaux, sans visite? Autant de questions sans réponse. Certes, la thèse du suicide est plausible. On imagine très bien Bader préférant passer pour un martyr plutôt que de croupir en prison. Il n'empêche, Yves-Paul Vincent, qu'on n'a pas fini de parler de cette bien curieuse prison de Stuttgart.
C'est dans l'aile gauche de la prison de Stuttgart-Steinmann que les 4 figures de proue du terrorisme ouest-allemand avaient été placées. Ce quartier de haute surveillance faisait depuis 6 semaines, c'est-à-dire depuis le début de l'enlèvement de M. Hans-Martin Schleyer, l'objet d'un contrôle strict et renforcé. Les cellules isolées des prisonniers étaient fouillées tous les jours. Ces cellules se trouvaient, c'est vrai, sur le même étage de la prison, au-dessus des prisonniers de droit commun les plus durs, mais aucun contact n'était en principe possible entre chacun des détenus. Comment expliquer dans ces conditions 1. Le fait que Bader et ses 3 amis étaient au courant du dénouement de Mogadiscio. 2. Le fait qu'on ait retrouvé dans les cellules de Bader et de Raspé des pistolets de différents calibres. Sur le premier point, les autorités allemandes ont une version à peu près plausible. La bande des 4 a pu être prévenue par les cris des détenus de l'étage du dessous. Sur le second point, en revanche, on se perd complètement en conjectures et les autorités livrent des explications embarrassées. Ces imprécisions poussent aujourd'hui les avocats des terroristes et une partie de l'opinion publique à mettre en doute la version du suicide, tout comme on avait douté du suicide d'Ulrike Meinhof il y a 3 ans. Pour se laver de tout soupçon, le gouvernement a pris une mesure rapide. Les corps des 3 terroristes feront l'objet d'une autopsie de la part d'une commission internationale de médecins légistes dans laquelle ne figure aucun Allemand. Certains trouveront que c'est beaucoup de sollicitude pour un groupe qui laisse derrière lui un bilan impressionnant, 22 morts en 6 ans et des dizaines de hold-up et d'attentats.
Maren Zell, nous venons d'entendre le journal du soir de France Inter, le 18 octobre 1977, l'annonce à la fois de la libération des otages du détournement de l'avion Landshut sur le tarmac de l'aéroport de Mogadiscio et l'annonce de la mort coordonnée par suicide des prisonniers de la bande à Bader à Stuttgart. Et Maren Zell, vous racontez dans tout cela que vous aviez hébergé les plus célèbres de ces brigades rouges à Paris, notamment bien sûr Bader et Gudrun Eslin.
Pas les brigades rouges, la fraction armée rouge.
Oui,
c'est vrai, mais on se rendait pas vraiment compte. Non, mais il y avait quand même là, arrivé là où vous êtes arrivé, donc à la mort, on voit bien qu'il y avait à partir de 72, il y avait un tunnel qui menait vers une catastrophe et où tout le monde allait mourir, non? Mais avant, non? Et ça a commencé à Francfort en 69. Ils étaient 3 à faire flamber quelques objets dans un supermarché pour protester contre la société de consommation, hein. Et rien de plus, pas. Personne n'a été blessé. Enfin, je veux dire. Et c'était quand même une juste. C'était un peu dans l'esprit des situationnistes en France, non? C'est-à-dire, on fait un peu des conneries comme ça pour mettre le miroir de l'avenir de notre société. Et c'était beaucoup plus ludique. Et c'est aussi la violence de la riposte, non? Parce qu'ils ont fait ça. Bon, après, ils sont venus en France, mais enfin, ils voulaient pas tuer, non, par exemple. Bon, voilà. Mais ils ont été tellement cernés que l'idée de tuer, de pouvoir tuer, est devenue de plus en plus obligatoire. Quoi. Et Ulrike Meinhof en parle très très bien. Quand après, ils étaient en prison, et ils ont été privés de toutes les sensations. Donc ils avaient l'impression que leur tête allait exploser. Quoi. Non, ils ont été maltraités. Hein. Évidemment, ils ont tué, mais bon.
La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Renzel, est-ce que vous vous souvenez de votre sensation, justement, ce jour de 1977? Est-ce que vous aviez vraiment l'impression que, voilà, qu'ils étaient rentrés dans un tunnel, et là, on était vraiment au bout de quelque chose d'inéluctable?
Inéluctable, oui, ça, absolument. Et c'est là, quand j'ai écrit mon premier livre, là, donc c'était une année après, enfin...
Oui, qui sera paru en 78, oui.
Oui, Mourir d'absence. Les échos comme ça que j'avais en France, j'avais l'impression que personne n'a pris en compte d'où ils venaient, ces terroristes, et qu'ils ont été des enfants de nazis, la plupart du temps, non? Et que pour eux, ils avaient, à l'époque, j'avais trouvé une expression, en parlant de moi et en parlant de tous les cinéastes qui étaient des amis, Fassbinder, Wenders, et les auteurs, bien entendu, que nous avons un cadavre dans le corps. C'était ça, l'expression. Et moi, j'ai considéré ce cadavre, il fallait qu'il sorte, enfin, il fallait l'expulser d'une façon ou d'une autre. Pour moi, la meilleure façon de travailler ce cadavre, c'était l'écriture. Mais pour Andreas et pour eux, c'était l'arme. Enfin, voilà, pour ne pas garder ça dans le corps.
Vous faites allusion à ce film collectif aussi, Un automne allemand,
oui, oui.
Où on retrouve voilà, Fassbinder, Schoenhoff, tous ces gens de cette génération. À ce moment-là, je crois que c'est même l'automne 77-78.
Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Oui, oui.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, peut-être la France connaît mieux justement cet héritage allemand qu'à l'époque?
Oui, moi je pense, et grâce à la culture, grâce à Fassbinder a fait comprendre beaucoup, Wenders aussi, et des écrivains jusqu'à maintenant, jusqu'à Kehlmann. Enfin,
Daniel Kehlmann.
Oui, oui. Mais c'est une blessure qui peut être mortelle, mais non, mais en France à l'époque c'était l'incompréhension totale, quoi. Et moi, je me suis un tout petit peu donné comme mission, parce que je me suis dit que c'est quelque chose que je peux comprendre mieux que d'autres. Je me suis donné un peu comme mission d'expliquer aux Français qui étaient ces terroristes, entre guillemets, et pourquoi c'est devenu aussi radical et quel était leur héritage qu'ils ont essayé de résoudre de cette façon-là. Donc voilà, donc je me suis autorisé en fait d'écrire pour expliquer, pour témoigner pour les autres.
Donc ça, c'est votre premier livre, c'est votre rentrée dans la publication. Est-ce que c'est aussi votre premier contact avec le monde de l'édition?
Oui, 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 oui. Bon, c'était aux éditions Grasset. C'était mon premier livre publié, évidemment.
Mais est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de passer de l'autre côté du miroir, comme vous le ferez par la suite? Ce contact avec l'édition, les éditeurs?
Oui. Alors, bon, mon éditrice, c'était Françoise Vanier, qui était une femme très, très, très puissante. Mais j'ai toujours lu énormément et je me suis toujours vécue un peu comme déjà avant d'écrire par moi-même comme une possibilité de quelqu'un qui peut faire un passage entre un pays et un autre, entre une langue et une autre, etc. Je me suis toujours vécue comme un corps de passage en fait. Voilà. Et il y a un passage que j'ai adoré de plus en plus, c'est quand un auteur s'adresse à vous. Et vous pouvez être déterminant dans sa vie, parce que vous lisez son manuscrit, vous êtes la première personne à le lire. Ce moment de conversion de rien à quelque chose, ou de la méfiance à la confiance, ça c'est des moments que j'adore. On peut dire transgression, mais c'est conversion plutôt. Ouais.
Et donc vous commencez comme lectrice puis éditrice aux éditions Flammarion, enfin ce que vous racontez dans
Lieu commun.
Lieu commun, voilà. Et qu'est-ce qui fait que justement immédiatement, vous vous passionnez pour ce métier? Est-ce que c'est le rapport aux auteurs d'abord?
D'être là pour faire éclore quelque chose, c'est tellement magnifique, non? Quand ce que je disais des fleurs tout à l'heure, vous aidez quelqu'un à vous donner naissance une première fois, une deuxième fois, une troisième fois à quelqu'un qui a besoin de, comme dit Jan Andrea, il a dit, qui a le talent d'écouter, d'entendre quoi, ce que veut l'autre. Donc c'est un rapport très fort à l'autre, je dirais, oui.
Mais vous expliquez dans Tout est là que ce que vous cherchez au départ aussi, ce sont des textes qui vont vous déranger, vous, ou en tout cas, qui ne seront pas ce qu'on trouve trop facilement dans les rayons de la littérature générale. Vous avez toujours envie d'une espèce de curiosité qui vous poussait toujours à chercher des choses nouvelles.
Mais parce que probablement, j'ai lu Kafka à 14 ans et à 15 ans et à 16 ans, etc. J'étais sensible à un certain type d'écriture qui probablement plus germanique et plus de l'Est, enfin la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc. Il y a un rapport à l'âme, non, qui en France, dans Françoise Vanni, s'est moqué de moi en disant, mais ah, tu vois, l'âme, ça n'existe pas, enfin c'est fleur bleue, etc. Les Français, ils vont rigoler. Et finalement, c'est quand même un concept. Maintenant, on peut tout à fait l'utiliser. Donc il y a un travail qui a été fait, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est Descartes, non, probablement. Ça a été trop... On a préféré le ratio, voilà.
Et à quel moment est-ce que vous vous dites, bon, ça y est, je suis devenue éditrice? Est-ce que c'est justement à vos débuts? Est-ce que c'est quand vous fondez avec Jean-Pierre Ramsay les éditions Ramsay? Est-ce que c'est plus tard, quand il y a Marenzel sur les...
Non, Ramsay, non.
Non.
Non, Ramsay, ça n'a jamais existé pour moi.
Oui, oui. Non, on va y venir. Ça, c'est les moments difficiles du livre.
Oui. Non, après, c'était lieu commun. Donc, quand même, enfin, j'ai appris à être éditrice, de relire et de corriger, d'avoir un rapport avec les deux auteurs. Et après, quand j'ai fondé ma propre maison d'édition, j'étais responsable de la ligne éditoriale. Mmh. Et c'était... la Kafka, elle est pas quelque chose. Enfin, j'aime beaucoup les auteurs prophétiques, hein, qui prévoient un peu ce qui peut nous arriver à nous tous, là, quand on frappe à la porte et on sait pas de quoi on est coupable, mais on est forcément coupable. Non, je me suis, oui, trouvé à ma place, vraiment, en tant qu'éditrice, oui.
Bah, il faut dire quand même un mot des choses qui fâchent. Oui. Ça n'a pas toujours été un moment facile. Il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles dans l'édition. C'est ce qu'on apprend quand on lit votre livre, que c'est aussi un monde de déception, de trahison, un monde qui ressemble malheureusement au nôtre, qui n'est pas uniquement...
Non, exactement. Oui. Non, mais parce que y a des jalousies, et puis bon, c'était un peu spécial aussi ce que je faisais. C'est-à-dire, c'était vraiment la petite bibliothèque européenne dont j'avais un engagement très pro-européen pour une Europe qui allait jusqu'à Moscou. Enfin bon, mais en même temps, pour faire vivre, enfin c'est un peu les réalités économiques aussi dont j'ai pris conscience. Donc j'ai fait des livres aussi qui étaient des purs produits de futurs best-sellers pour faire vivre la maison, quoi.
Oui, et ça, on le fait quand même volontiers. Il faut le faire. Ça, vous êtes
bien
d'accord.
Placé. J'étais bien placé pour le faire. Oui.
Et vous avez aussi beaucoup édité de figures du féminisme. C'est quelque chose qui fait partie aussi de votre engagement comme éditrice. Vous avez été l'éditrice, si je me trompe pas, de Julia Kristeva, d'Hélène Cixous, d'Elisabeth Badinter. Ça, c'est concilier un peu un engagement personnel avec une réalité professionnelle.
Oui, bien sûr. Ben ça, c'est formidable de donner un tout petit peu de sa propre petite bulle, non? Tout d'un coup, on peut en faire une grosse bulle, quoi. En sollicitant des écrivains de nourrir cette bulle, comme vous dites, ça peut être le féminisme, le droit des femmes.
Vous évoquez l'intensité, justement, des échanges, et comme finalement, ce sont le contact, non seulement des textes, mais de ces autrices qui vous ont aussi transformé au fil du chemin. Et que vous devez finalement beaucoup à
tous mes auteurs.
Autrices,
oui. Ah, mais complètement, bien sûr, mais oui. Ça veut dire que c'est une véritable relation. C'est-à-dire, on fait et on est fait. On est fait par les autres. Hein.
Et est-ce qu'on est fait aussi par les moments malheureux, sans doute? Les trahisons et les...
Oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais l'impression que c'était quand même pas mon univers complètement. Hein. Avec les tiraillements et... quand Françoise Annie m'a dit maintenant il faut coucher utile, enfin bon, vous vous rendez compte?
Oui, non, mais racontez cette anecdote parce qu'elle est quand même assez extraordinaire.
Extraordinaire. Donc mon livre a eu un bon accueil, donc c'est le premier. Et elle était mon éditrice et elle me dit, bon, la première étape c'est fait. Maintenant il faut, tu sais quand même, maintenant il faut coucher utile. Alors moi j'avais entendu jamais quelque chose pareil dans ma vie, mais ça voulait dire, voilà, maintenant on le sait qu'il y a eu des violences sexuelles et des viols, etc. Donc moi j'ai résisté, j'ai dit que je ne vais pas faire ça. Mais la tentation, enfin, je comprends les filles qui veulent avoir une carrière dans cet univers où c'est difficile pour une femme d'avoir une carrière. Et c'était entrer un tout petit peu dans les habitudes que c'est plus facile de s'allonger que de...
Coucher utile. Oui, mais plus facile que quoi? Parce que c'est justement toute la question. C'est-à-dire que c'est un monde de pouvoir.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez vu ça changer, justement?
Ah, mais oui, absolument. Oui. Heureusement. Ah non. Moi, je crois que ces années-là, c'était vraiment le comble. 70, 80. Non, maintenant, ça a changé. Hein. Mais là, comme le livre est un peu adressé à mes petits-enfants, non? J'en ai 10. Ça, c'est une question que mes grandes filles, enfin, mes petits-enfants grandes filles, m'ont posée. Vous en dites qu'on est parfois on est un peu jaloux parce que vous suspectez pas les hommes de vouloir vous violer, etc. C'est-à-dire vous avez une confiance en fait quand vous faites l'amour avec quelqu'un. Et maintenant, on a presque envie d'inviter un avocat dans notre lit parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà.
Mais pour autant, peut-être pas en même temps. Peut-être c'est un moment de transition où justement il faut que les choses se rééquilibrent. Mais je pense que dans le monde des lettres, par exemple, aujourd'hui. Il y a presque plus d'autrices femmes.
Ah oui, non, mais je vous dis, c'est. Absolument.
Que d'hommes,
donc c'est les hommes maintenant qui craignent, non?
Qui craignent pour leur pouvoir, peut-être, oui, mais c'est très bien que ce soit ainsi.
Voilà,
en fait.
Voilà.
Oui, tout à fait. Et revenons à l'amour. Et à ce moment, justement, que vous avez décrit dans un autre livre, mais vous revenez là-dessus, dans Tout est là, et qui est justement l'adoption au Tibet, ce grand moment extrêmement émouvant, en tout cas pour le lecteur, qui a été l'adoption de votre fils au Tibet, avec le Dalai Lama, qui est quand même aussi une expérience. Quand on dit ça comme ça, on a l'impression que c'est presque un rêve ou un conte. Et quand vous le racontez, c'est presque comme ça, c'est presque voilà un moment... qui touche à la magie, en fait.
Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs moments. Je crois que j'avais, depuis toujours, une envie d'avoir plusieurs vies, non? Voilà. Et dès qu'une autre vie se présentait, j'avais envie de faire cette expérience. Et là, on avait, avec Georges, qui est mon mari, il avait deux filles déjà, et nous avons Katia, notre fille, et on voulait avoir un fils, non? Bon. Et donc, on a eu l'idée d'adopter un garçon. Et je me suis adressée au médecin du Dalai Lama, qui m'a dit cette phrase absolument merveilleuse. Je pense à quelqu'un. Vous allez venir au Tibet, à Dharamsala. Si l'amour se produit entre le garçon et vous, vous allez partir avec le garçon. Si l'amour ne se produit pas, vous rentrez et vous oubliez tout ça. Non, mais c'était des paroles tout à fait différentes, non? Et aussi, là, même quand un Kunga est venu et on a fait une adoption plénière devant le tribunal, etc., cette phrase, la loi, c'est l'amour, c'était le président du tribunal qui disait, ah bon, alors vous êtes allé, etc., mais il n'y a pas de documents, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. C'est quoi, alors? Alors, j'ai dit, la loi, c'est l'amour. Elle a dit, alors ça, putain, quand même, c'est bien.
C'est une phrase assez magnifique, puisque en même temps, s'il n'y avait pas eu cet amour, l'adoption n'aurait pas été possible.
Ah non,
donc c'est
absolument.
Ramener les choses à leur simplicité.
Simplicité, oui, voilà. Et il faut arriver à une simplicité. Je pense que mon livre est assez simple par rapport à ce que j'avais fait avant. Et alors, vous étiez libre, est-ce que vous étiez libertaire? Alors je dis que non, parce que libertaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas de limite, non? Et notre limite, pour moi, et autour de moi aussi, je pense, c'est quand on n'est pas amoureux, mais on ne fait pas l'amour. Il faut être amoureux. Donc il y a une limite, c'est le cœur qui dicte cette limite, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est très simple à expliquer, non? Au lieu de, maintenant, c'est tellement tarabiscoté, la loi, c'est simple.
Quand je dis nous, en fait, c'est vous qui nous écoutez. Et puis, ce sont évidemment mes invités que je vais vous présenter, à commencer par vous, Yann Andrea. Vous avez été le compagnon de Marguerite Duras pendant 16 ans, à la fin de sa vie. Cette histoire vécue, vous l'avez écrite dans un livre intitulé « Cet amour-là », un livre que vous lui écrivez à elle, un livre écrit pour elle. Est-ce que c'est le meilleur des remèdes, finalement, l'écriture pour se guérir?
Moi, je ne veux pas me guérir. Donc, je ne sais pas si c'est un remède, mais... Ça peut aider, oui. Mais c'est pas en termes de guérison d'être malade ou pas. C'est pas ça.
C'est quoi?
Je sais pas, c'est autre chose. C'est ce livre-là que j'ai essayé d'écrire. Essayer de comprendre ce qui se passe entre deux personnes.
Nous venons d'entendre l'écrivain Yann Andrea au micro de Patricia Martin en 1999. C'est très beau, Marenzel, ces mots. Je ne cherche pas à me guérir. Parce que dans l'amour, il y a aussi la possibilité des chagrins d'amour. C'est aussi la possibilité de la douleur qu'on investit dans un amour.
Oui. Alors, me vient à l'esprit une... Bon, évidemment, c'est très compliqué, hein, parce qu'il a beaucoup souffert, Yann et moi aussi, d'ailleurs, enfin, dans notre relation. Il y a une chanson de Marlène Dietrich. Alors, wenn ich mir was wünschen dürfte. Vous connaissez ça?
Non.
Käme ich in Verlegenheit, was ich mir doch wünschen sollte, eine gute oder schlimme Zeit. Il faut que je traduise. Si je peux souhaiter quelque chose, je serai embarrassée. Je ne sais pas ce que je choisirai, du bon temps ou du mauvais temps. Mais si je peux dire quelque chose, c'est que je voudrais être un tout petit peu heureux. Möchte ich gerne glücklich sein. Denn wenn ich allzu glücklich wäre. Oui. Parce que si je suis trop heureuse, j'aurai la nostalgie de la tristesse.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
C'est pas joli, ça?
C'est très beau, on dirait un fado, un peu.
Ah oui, oui, absolument, oui, oui. Ah, voilà, c'est Marlène Dietrich. Et je trouve que ça... C'est vraiment, les Allemands, ils aiment la tristesse, non? La tristesse qui est véhiculée par la culture, par la poésie, la musique. La tristesse, c'est bien. Mais il ne faut pas être que triste, il faut être allègre.
Vous croyez que c'est ça qu'il veut dire, Yann Andrea, quand il dit « je ne veux pas me guérir,
oui.
Je veux rester dans le chagrin d'amour ».
Je crois. Et c'est aussi, c'était notre terrain d'entente entre une Allemande et un
Français.
Yann Andrea, oui.
Et quelqu'un qui avait été blessé, détruit par la mort de Marguerite Duras.
Oui. Et qui trouvait que la tristesse était la bonne façon d'être avec ça. Il ne faut pas guérir de la tristesse, non ? Je comprends très bien ce qu'il veut dire.
Et vous consacrez de nombreuses pages justement à cette relation difficile à percevoir de l'extérieur avec Yann Andrea, parce que c'est à la fois votre auteur et quelqu'un avec qui finalement vous vous laissez embarquer dans quelque chose qui va plus loin que le rapport entre une éditrice et son auteur.
Ah oui, souvent, ouais. Oui. Non, c'est merveilleux hein, quand il y a en plus, d'être amoureux quoi. S'il y a ça en plus, parce qu'on est déjà nourri tellement. Je veux dire tout ce que je disais de l'âme et le cœur et la tête et l'écriture. On est tellement nourri que ça ne peut être que beau, mais c'est jamais c'est jamais à la hauteur. Donc on souffre parce que c'est pas. Il y a la nostalgie de la tristesse, c'est ça.
Et c'est pas à la hauteur de quoi, alors ?
Non, c'est l'imaginaire est toujours plus vaste que la réalité de la rencontre. Hein. Vous n'êtes pas d'accord ?
Je sais pas, mais il y a quand même l'instant qui fait que par moment, cet instant-là
l'instant
dépasse
éternel.
Un peu toute la possibilité de
l'instant éternel. Le Glück will Ewigkeit. Ouais. Tout bonheur veut l'éternité.
Mais cette éternité, elle existe justement dans l'impossibilité de sa continuité.
Oui. Sauf que les livres durent plus longtemps que l'instant d'éternité, non ?
Ah oui, alors le texte est une frustration aussi, peut-être d'une forme d'absence de celui qui n'est pas dans le texte.
Mais oui, absolument, bien sûr. Alles geben die Worte nicht her. Non, les mots ne disent pas tout, ça on le sait.
Est-ce que c'est pour vous peut-être le moment le plus fort de vos rencontres avec des auteurs, Yann Andrea ?
Oui. Yann Andrea et d'autres, non? C'est un moment très, 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 très fort, je trouve. Parce qu'on est déjà, par la lecture du livre, on est déjà une intime de l'auteur avant de l'être. Finalement, on passe d'une intimité à une autre intimité. C'est très intime, la lecture d'un texte.
Mais quand je vous disais qu'il vous avait embarqué, il vous a aussi embarqué comme autrice avec lui. C'est-à-dire que vous avez ensuite écrit.
Ah oui?
Ouais.
En même temps, en fait, mais on voulait tout. Hein. c'était caché. Hein. Il avait caché ses textes et moi j'avais caché le mien aussi, parce que c'était trop difficile pour les enfants. J'ai pensé que c'était trop difficile pour les enfants
de lire
cette relation qu'on avait. Oui. Voilà, donc on a laisser la mort agir avant de publier.
Et qu'est-ce que ça fait, alors justement, de voir ça au grand jour, 10 ans après, même plus, 15 ans après ?
C'est bien. C'était un amour qui a pu résister au temps. Hein. Non, c'était quand même un grand amour, quoi.
Est-ce que c'est justement un grand amour parce qu'on peut le partager et on voit qu'il est partageable même longtemps après?
Oui, tout à fait. Tout le monde avait compris à la lecture. Hein. Ouais. J'ai toujours essayé d'insuffler de la vie, mais Yann, il était vraiment sur une pente. Il aimait la mort, en fait. Hein. Le mourir.
Marenzel, je voudrais pas qu'on se quitte sur une note aussi triste. Il faut qu'on parle un peu de l'Inde. Parce que c'est aussi un de vos amours, une de vos passions. L'Inde et le bouddhisme, alors ça ne va pas forcément toujours ensemble, mais
en tout cas, tout à fait.
C'est aussi quelque chose qui vous a profondément nourri. Une découverte en tout cas importante.
Oui. Non, ce qui est merveilleux, c'est que quand vous êtes confronté à un autre type de faire avec la vie, de faire avec la nourriture, de faire avec la mort, vous rendez compte que vous êtes conditionné, non, par notre civilisation, et on pense quand on est dans la civilisation que c'est la meilleure. Il faut que ça soit comme ça, parce qu'on a été imprégné par ça complètement. Et moi j'adore quand je vois que les choses à observer se déplacent, non ? Que vous avez plus, vous vous rendez compte que vous êtes dans un schéma, mais il y a des civilisations qui ont un autre schéma. Et comme ce que je disais tout à l'heure de la conversion, j'aime beaucoup quand on devient autre par la présence qu'on a dans un autre pays avec des gens qui ne pensent pas comme vous, etc. Et le bouddhisme, c'est une façon de penser qui m'est devenue très 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 proche, hein, alors que avant j'en avais pas entendu parler. Quand mon fils est arrivé en France et on est allé dans une église, et il a vu la croix, non, avec Jésus. Oh, il a dit, mais comment vous pouvez adorer un Dieu qui souffre, qui est sur la croix et qui... Non, un Dieu, il doit être souriant, il doit être dans la bienveillance et pas dans la souffrance. Parce que, bon, évidemment, il y a les quatre nobles vérités, et parmi les quatre nobles vérités, c'est effacer la souffrance et empêcher la souffrance. Voilà, donc ce qui est le credo d'une pensée bouddhiste, l'impermanence, l'interdépendance et absence de souffrance, voilà. Mais si vous mettez ça, les trois principes déjà un peu dans la tête, vous changez votre vie. Votre vie est changée par ça.
Et la réincarnation alors, le karma, est-ce que vous y pensez ?
Ah ben, je trouve que c'est joli. Je trouve que c'est joli parce que ça oblige... Enfin, c'est pas l'impératif catégorique de Kant, non ? Mais il faut bien se comporter dans cette vie pour avoir une belle vie après, hein. Comportez-vous bien de votre vivant, comme ça vous avez une petite chance d'être une libellule après.
Marenzel, pour conclure peut-être cet amour dont on a parlé depuis le début de cette émission, est-ce que c'est pas l'amour pour autrui en fait ? Est-ce que c'est pas l'altérité qui vous fait fonctionner, aller de l'avant ?
Complètement. Et là, je trouve que dans l'amour, il y a, quand on est attentif, non, à l'amour, donc la passion c'est merveilleux, le tomber amoureux, etc. Après, il y a le travail de l'amour, non? Quand il y a un travail à faire quand on est dans l'altérité, non? Avec l'autre, voilà. Et là, il y a différentes définitions de l'amour qui entrent en jeu, hein. C'est-à-dire, pour les bouddhistes, c'est la compassion, pour nous, l'empathie, la pitié, enfin, tout, non? C'est d'apprendre à faire avec l'autre. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'il y a des bulles, non? Sur la couverture de mon livre. Donc tout est là, ça peut être très 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 pesant. Et quand j'ai trouvé cette photo avec les bulles, qui a été faite quand j'ai publié le livre de Peter Sloterdijk, qui s'appelle Bulles, et le photographe a voulu faire des photos avec des bulles, je trouvais que c'était vraiment le contraste, non, de la pesanteur d'un livre et de la légèreté des bulles. Je trouvais ça très très joli et en fait très bon. On est dans l'éphémère, une bulle explose et puis on passe à autre chose. C'est juste pas l'éternel.
Tout est là mais n'est pas là en fait.
Non, voilà, c'est ça. Oui.
Merci beaucoup Marenzel de nous avoir rejoint dans la conversation littéraire. Tout est là est paru aux éditions Grasset. La conversation littéraire est réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec Pierre-Henri et la technique aujourd'hui. La préparation en est assurée par Aurélie Marseille. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster la conversation littéraire sur l'appli de Radio France et le site web de France Culture. Bonne fin de journée sur France Culture.